Jacob, Léa et Rachel, la passion et la filiation au risque du bonheur. Chers amis, c'est une grande joie de pouvoir se retrouver, surtout après ces fêtes pascales que nous continuons à célébrer et à vivre ensemble. Et pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous avançons dans notre lecture de la vie des patriarches et de leurs épouses que nous avons déjà nommées les matriarches. Alors je rappelle rapidement un peu l'objectif et le sens de notre parcours. Nous relisons la vie de certains couples de l'histoire sainte, particulièrement des patriarches, pour essayer de comprendre comment le masculin et le féminin sont appelés à s'articuler et à s'harmoniser l'un avec l'autre. Alors, ce parcours a déjà mis en lumière les écueils dans lesquels pouvaient tomber l'un et l'autre. Et le mois dernier, nous avons déjà commencé à explorer la vie de Jacob et de Léa et Rachel, ses deux épouses. Celui-ci, après avoir dérobé la bénédiction de son frère Ésaü, je vous le rappelle, et surtout par crainte de représailles mortelles de la part de ce frère, qui est un frère jumeau, va se rendre chez Laban. Dans un premier temps, Jacob tombe amoureux de Rachel, pour laquelle il propose à son père de travailler pendant 7 ans. Cette rencontre, je vous le rappelle, a lieu sur un puits. Cependant, Rachel est la cadette des filles de Laban. L'aînée, Léa, n'est pas encore mariée et donc, selon la coutume de l'époque, Léa doit se marier d'abord avant que Rachel puisse contracter un mariage. Et donc, nous le savons aussi, Laban, le père de Rachel et de Léa, va tromper Jacob le soir des noces et il va donner Léa au lieu de Rachel comme épouse, en tout cas comme première épouse. Et donc Jacob va devoir travailler 7 nouvelles années pour pouvoir enfin épouser Rachel. Ainsi, la vie de couple de ce couple de Jacob avec les deux sœurs commence de manière assez bancale, et vous l'avez bien compris. Le couple Jacob-Léa ne repose que sur le devoir de l'union qui lui a été imposé bien malgré lui. Rachel, au contraire, est l'épouse de la passion, celle qu'il va chérir sans aucune limite, mais au point, nous allons le voir, de délaisser Léa. Léa est l'épouse du devoir et de la loi, et nous avons vu le mois dernier que Jacob était aveuglé par la passion et ne considérait pas Léa pour elle-même. Nous avons vu aussi la rivalité qui s'est installée entre les deux sœurs. La première se sait aimée passionnément, mais elle va demeurer stérile. Léa, au contraire, de son côté, va donner très rapidement de nombreux garçons à son mari, mais celui-ci va continuer de l'ignorer complètement. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment cette situation va continuer de s'envenimer et va développer une véritable tension entre la passion que Jacob et Léa et Rachel éprouvent l'un pour l'autre, et puis le devoir qu'a Jacob d'aimer et de s'unir à Léa. Alors, reprenons la lecture du passage du livre de la Genèse où nous l'avions laissé la dernière fois. Nous sommes au chapitre 29 de la Genèse, et puis nous enchaînerons sur le chapitre 30. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aimait Rachel plus que Léa. Il servit donc Laban pendant 7 ans encore. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Rouben, car, dit-elle, le Seigneur a vu ma détresse, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Le Seigneur a compris que je n'étais pas aimée, et il m'a encore donné cet enfant. » Elle l'appela Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur. » C'est pourquoi elle l'appela Judas. Ensuite, elle n'eut plus d'enfants. Voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Jacob s'enflamma de colère contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu, moi ? C'est lui qui t'a empêché d'avoir des enfants. » Rachel reprit, « Voici ma servante Bila. Unis-toi à elle pour qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi, grâce à elle, j'aurai un fils moi aussi. » Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a écouté ma voix et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, devint encore enceinte et elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. » Elle appela donc l'enfant Nephtali. Quand Léa s'aperçut qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament bienheureuse. » Et elle appela l'enfant Asher. Dieu exauça Léa, et elle devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné un cadeau parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle appela l'enfant Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau présent. » Cette fois-ci, mon mari m'estimera, car je lui ai donné six fils. » Et elle appela l'enfant Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Dieu se souvint de Rachel. Elle l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé ma honte. » Elle appela l'enfant Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir, je vais retourner chez moi dans mon pays. » Nous l'avons bien vu dans la lecture de ce récit. Une fois le mariage et la situation à trois, c'est-à-dire d'un homme avec deux épouses, vient le moment de comprendre comment va s'organiser cette relation triangulaire. Jacob, nous l'avons rappelé, a toujours aimé Rachel. Mais c'est Léa qui lui donne, en tout cas dans un premier temps, de nombreux fils. Elle lui donne d'abord trois garçons. Elle lui en donnera ensuite trois autres, sans compter ceux que lui donneront les deux servantes. Pourtant, le cœur de Jacob ne se tourne pas vers elle. Au contraire, Rachel reste stérile jusqu'à la fin du récit, alors que Léa, elle, enfante. Mais le cœur de Jacob reste tourné vers Rachel. Remarquons au passage que ce n'est que lorsque Rachel enfante Joseph, eh bien que Jacob va se décider à partir et à rentrer en terre de Canaan. C'est comme si Jacob attendait cet enfant, celui qu'il désirait depuis toujours, son seul véritable descendant, car c'est celui qui vient de la seule femme qu'il n'ait jamais aimée. Puisque nous essayons de comprendre depuis le début de notre série de conférences et d'interventions comment, selon le plan de Dieu, doit se réaliser la masculinité et la féminité de l'être humain, et comment les deux doivent s'articuler de manière harmonieuse, nous devons reprendre quelques-unes des conclusions de notre lecture de la création de nos premiers parents, Adam et Ève. Lorsque nous avons lu les deux récits de la création d'Adam et Ève, nous avons constaté que chacun des genres, le masculin et le féminin à leur manière, cherchait à combler, dans la recherche de l'autre, un manque qui leur était inhérent. S'il est vrai que le manque existe pour tous les êtres humains, eh bien, nous avons vu aussi qu'il ne se manifeste pas de la même manière pour l'homme et la femme. pour l'homme, eh bien, il se manifeste dans une tendance à risquer la sortie de lui-même pour aller à la recherche d'une partie qu'il pressent comme manquante en lui, sans pourtant déterminer les contours de ce qu'il recherche. L'homme, le masculin, est un être en sortie, dans une quête dont il ignore le terme, car ce que Dieu a fait de sa côte, lui, eh bien, il l'ignore. Nous rappelons que Adam, lorsque Dieu a pris la côte d'Adam, eh bien, Adam était endormi. Au contraire, la femme est présentée à l'homme. Elle n'est pas attirée par une quête quelconque, car Dieu met en elle l'intuition de la place qu'elle occupe dans l'ordre de la création. Elle est cette pièce manquante, comme cette clé de voûte, et elle le sait. C'est toute la force du féminin qui est là. Les différentes épreuves de la vie des patriarches nous ont montré cette première différence. Et l'autre leçon des patriarches vient des différentes tentatives de trouver une harmonie dans la relation de l'un envers l'autre afin de répondre convenablement aux exigences de l'Alliance. Et c'est justement sur ce point que nous devons reprendre l'histoire de Jacob, de Rachel et de Léa, au risque de passer à côté de l'essentiel de nos considérations. L'harmonie des relations hommes-femmes, particulièrement concrétisée dans la vie de couple, ne se réalise pleinement que lorsqu'elle est orientée vers un idéal plus haut. Dit d'une autre manière, la réalisation plénière de l'être humain, dans sa masculinité et dans sa féminité, ne peut se réaliser que dans l'harmonisation du masculin et du féminin en vue de l'accomplissement d'une visée supérieure. La solitude d'origine qu'éprouvait Adam, c'est-à-dire l'humanité, dépourvue de genre car seule, se manifestait particulièrement dans le manque de dialogue, de conversation. Il y avait une espèce d'absence de face à face ou de vis-à-vis. Le vis-à-vis lui a d'abord donné de se connaître lui-même et ensuite de sortir de lui-même. L'apparition de l'autre en tant que différent mais semblable, qu'on pourrait décrire de manière beaucoup plus simple comme la complémentarité sexuelle et donc la complémentarité du genre, va apporter à l'humain la possibilité de la connaissance de soi par la conscience d'autrui. Mais cette connaissance, à cause du péché, a apporté un enfermement sur soi dans la relation avec l'autre qui devient plus de l'ordre de la rivalité et de la compétition. C'est exactement ce que nous voyons arriver dans le récit, surtout entre Léa et Rachel. Lorsque l'humanité, à cause du péché, reste prise au piège dans une forme d'individualisme, et aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est quelque chose que nous voyons de manière extrêmement sensible, dans cette forme d'enfermement qui l'empêche de s'ouvrir à l'autre, eh bien, l'humanité ne peut en sortir que si elle accepte de rentrer dans un projet qui le dépasse. En effet, l'ordre du Créateur à l'aurore de la création de l'humanité est bien celui-ci, croissez, ou alors soyez féconds, et multipliez-vous. La seule manière d'échapper à la mort par asphyxie d'une existence limitée et enfermée dans ses propres limites est de croître et de se multiplier. Comment ne pas voir dans l'histoire de Jacob, de Rachel et de Léa les deux manifestations encore non harmonisées de ces deux commandements de l'origine? Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer tout au long de cette intervention. Rachel, elle, vit de la passion qu'elle éprouve pour Jacob. Et lui, Jacob, éprouve exactement la même passion pour Rachel. C'est un lieu de vie et de croissance personnelle pour l'un comme pour l'autre. Tous les deux éprouvent une joie et un bonheur sincère de se retrouver. C'est tellement vrai que les 7 années qu'ils vivent ensemble en attendant le mariage passent aussi rapidement que quelques jours. Ce temps physique qui a l'air de se rétracter pour faire passer l'attente, c'est le temps de l'espérance. Cette vertu permet déjà de goûter au bonheur qui est promis, mais pas encore présent. Cette conception du temps, que l'on pourrait dire psychologique, rejoint la promesse que Dieu fait lorsque, en donnant le quatrième commandement, il adjoint une promesse. Le quatrième commandement, je vous le rappelle, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et juste après, le Seigneur dit « Afin de vivre de longs jours sur la terre que le Seigneur Dieu te donne. » Alors, dans un premier temps, le peuple comprenait de manière littérale cette promesse. En effet, celui qui mourait âgé était un homme béni et juste, nécessairement, puisqu'il répondait à cette promesse. Et au contraire, celui qui mourait jeune, était nécessairement un impie, puisqu'il ne profitait pas des longs jours sur la terre promise. Mais à force de voir de nombreux justes partir dans la fleur de l'âge, cette interprétation devait nécessairement être revisitée. Ainsi, la longévité des années n'est plus à comprendre dans le sens de l'extension, c'est-à-dire de la quantité, mais plutôt dans l'ordre de l'intensité. Les longues années se transforment ainsi en force de vie qui permet de la vivre en plénitude, malgré les jours plus ou moins nombreux. C'est exactement l'expérience que font Rachel et Jacob lors des 7 années d'attente. Ils vivent dans une telle intensité que les jours ne se comptent plus. C'est ce que les psaumes nous révèlent de la vie même de Dieu lorsque nous prions « Pour toi, 1000 ans sont comme un jour ». Le couple Jacob et Rachel, et ainsi le couple paradigme, si on veut parler ainsi, de la fécondité de la vie, comprise comme intensité, nous apporte beaucoup de lumière. Les deux vivent réciproquement et en espérance dans le don, grâce à la passion qu'ils éprouvent. Mais la présence du couple Jacob-Léa apporte l'autre dimension du premier commandement divin « Multipliez-vous ». En effet, Rachel ne donne pas d'enfant à Jacob, du moins pas dans un premier temps. C'est Léa qui va donner en premier à Jacob une descendance. Léa incarne donc l'autre partie du commandement divin, celle de la multiplication, chose que Rachel est pour le moment incapable de réaliser. Léa enfante rapidement et successivement. Elle donne ainsi à l'Alliance l'ouverture nécessaire pour continuer de rendre présent dans le monde la bénédiction donnée par Dieu à Abraham. En effet, il a été dit à Abraham, « Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Sans cette descendance, aucune possibilité de faire arriver cette bénédiction. En cela, les maternités de Léa sont une véritable bénédiction. Mais dès la première naissance de Léa, on constate que pour elle, l'expérience de la maternité ne s'inscrit pas directement dans la dynamique de l'Alliance. Elle donne à son aîné le nom de Ruben, car « le Seigneur a vu ma détresse et maintenant mon mari m'aimera », selon ses propres mots. La deuxième naissance sera aussi pour elle l'occasion de manifester son mal-être. « Le Seigneur a compris que je n'étais pas aimé et il m'a encore donné cet enfant ». Et pareillement, à la naissance du troisième, elle affirme « Maintenant, cette fois-ci, mon mari va s'attacher à moi, car je lui ai donné 3 fils. » Dans les 3 cas, cette multiplication, cette fécondité physique, n'est malheureusement pas le fruit de la fécondité intérieure, d'une croissance vers plus de vie qui déborde et donne naissance à des vies nouvelles. Ces naissances, bien au contraire, sont un peu comme le fruit de la frustration de ne pas être aimé. C'est-à-dire, la mort qu'il y a en elle, va essayer de s'exprimer par la vie de ses enfants. Elle est morte aux yeux de Jacob. Elle ne peut pas concevoir la vie en dehors de cette relation qui lui est due. Mais elle n'a pas l'impression de vivre car elle ne compte pas aux yeux de son mari. Ainsi, elle pense que les naissances et les nombreuses naissances qu'elle va avoir, eh bien, vont attirer le regard et surtout le cœur de Jacob. Mais l'histoire nous a dit que il restera désespérément insensible à la détresse de Léa. Il va garder les yeux fixés sur Rachel. Voici donc l'enseignement que nous pouvons tirer de ces deux relations qu'on pourrait nommer d'antinomiques. Nous voyons dans les deux personnes différentes les deux extrêmes qui peuvent apparaître dans une relation au sein d'un couple ou plus simplement dans une relation entre un homme et une femme. Dans la relation Jacob-Rachel, on voit comment la passion apporte un supplément de vie qui permet d'affronter les difficultés de la vie dans l'espérance. La passion apporte puissance et force. Mais cette passion est aveugle. Nous l'avons déjà vu le mois dernier. Elle aveugle Jacob qui est incapable de voir la souffrance de Léa. Elle se sent exclue de la vraie vie car son mari ne la regarde pas. Cette passion apporte néanmoins ce supplément d'âme, cette étincelle qui permet de tenir jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pour Jacob et Rachel, cette promesse est évidemment la vie maritale, mais aussi la bénédiction donnée par Dieu à Abraham et que ses descendants reçoivent non pour eux mais pour toute la terre. La passion est donc un élément précieux, mais son intensité et ce qu'elle donne à celui qui l'éprouve aveugle sur le sens profond de pourquoi elle a été voulue par le Créateur. Elle permet de tenir dans l'épreuve, mais elle n'est pas un aboutissement en soi. La passion, si elle est prise comme une fin en soi, comme le suggère la relation avec Rachel, et la stérilité de cette union, reste inféconde. Rechercher simplement la passion, c'est chercher un moyen de et surtout, c'est le considérer comme une fin en soi. C'est ainsi transformer une créature en une forme d'idole. Et toute idole enferme et empêche de regarder plus loin et plus haut. Or, lorsque lorsque la complémentarité d'une relation n'est pas ouverte à une dimension qui dépasse le couple, comme nous l'avons vu dans l'introduction, alors l'intensité de la passion provoque un affaissement sur soi comme une sorte d'implosion. C'est comme si le propre poids de la passion entraînait inexorablement l'écroulement de l'union. Alors, comment ne pas faire en sorte que la passion conduise à l'implosion? Comment faut-il pour que une relation ne devienne pas une prison? Il faut qu'elle soit ouverte à une dimension supérieure. C'est un peu comme une cheminée qui a besoin d'un appel d'air pour que la combustion continue. Sans cet appel d'air, aucun moyen pour la fumée qui est produite par le feu, de s'échapper. Si la fumée reste dans la pièce, elle finira par étouffer et éteindre le feu. Cette dimension supérieure peut être tout simplement une ouverture à l'autre, une place laissée à l'imprévu, ou encore la prise de conscience de la mission d'un couple au sein de l'Église, dans le cadre d'un mariage chrétien par exemple. Car nous le savons, le couple chrétien est appelé Église domestique. Tout ça, constitue comme un appel d'air, comme une ouverture vers quelque chose qui est extérieur au couple et donc qui va permettre au couple de respirer et de ne pas se laisser asphyxier par la passion. Dans un deuxième temps, la relation Léa-Jacob obéit au commandement de la multiplication, c'est-à-dire la deuxième partie du commandement du Seigneur, « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il est très frappant de voir à quel point Jacob assiste silencieusement et même, on pourrait dire avec un certain dédain, à cette fécondité qui devrait être pourtant source de joie pour lui comme pour Léa. Léa a beau multiplier les grossesses et la procréation de fils héritiers, eux, de l'Alliance, rien n'y fait. Jacob reste enfermé dans sa relation passionnelle avec Rachel. Et Léa, de son côté, essaye par tous les moyens d'ouvrir les yeux de Jacob pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas rester enfermé dans cette relation, mais qu'il doit s'ouvrir à la promesse et à l'alliance. Nous voulons ainsi souligner que la mission que se donne Léa, peut-être de manière inconsciente, n'est pas complètement pure. Ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même, eh bien, ce n'est pas la multiplication comme le fruit d'une fécondité intérieure, mais plutôt la multiplication des enfants comme des cris d'appel au secours. Elle souhaite des enfants pour attirer l'attention et montrer que son existence a une valeur en soi, indépendamment des enfants qu'elle peut porter. Elle fera le constat bien amer, avec le temps, malheureusement, que le nombre d'enfants ne va absolument rien changer à la relation purement charnelle qu'elle entretient avec son mari, plutôt que Jacob entretient avec elle, Léa. Alors, malgré ces situations profondément douloureuses, et puis aussi, il faut le dire, ses intentions non ajustées, Léa arrivera à faire tout de même un cheminement intérieur relativement admirable jusqu'à la naissance, plutôt à la naissance de son troisième garçon. En effet, lorsqu'il naît, elle s'écrit « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur ». Remarquons au passage, et je crois que ce n'est pas du tout un détail, eh bien que Léa est la première personne du genre humain à élever une louange à Dieu pour le don de la maternité. Et je vous encourage à aller voir les différentes maternités avant celle de Léa. Aucune autre femme ne loue Dieu pour le don de la maternité. Et si l'on compare, même de façon très brève, le commentaire que Ève fait lorsqu'elle met au monde Caïn, son premier fils, elle dit « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur ». Donc de cette phrase-là à la phrase de Léa qui dit « Cette fois-ci, je louerai le Seigneur », il y a une grande évolution. La phrase d'Ève met plus l'accent sur ce qu'elle a gagné que sur ce qu'elle a reçu. Au contraire, Léa va bénir le Seigneur pour cette vie nouvelle. Elle va transformer cet événement, qui est pour elle un événement triste parce que Jacob ne la regarde toujours pas, en une occasion de louange et un signe de bénédiction. La maternité, considérée en première instance donc comme un signe ou un simple moyen pour gagner l'amour du mari, devient avec le temps et beaucoup de sacrifices, on imagine, un lieu de croissance spirituelle. Telle est ainsi la pédagogie et la force de Dieu qui permet l'émergence de la vie, même là où il y avait à l'origine la mort. Alors, résumons l'histoire des relations complexes entre Jacob et Rachel et Léa. Dans ce composé de deux sous-couples, pour ainsi dire, nous avons devant les yeux les deux situations extrêmes vers lesquelles peuvent tendre les relations entre le masculin et le féminin. Un extrême consiste à ne vivre que dans ce que nous avons appelé la passion, c'est-à-dire, selon le modèle Rachel-Jacob. Cette relation donne de vivre avec une intensité rare la relation de complémentarité. C'est de fait ce qui a amorcé la relation passionnelle entre les deux, car Jacob est arrivé sur la terre où habitait Rachel complètement dépouillé. Nous l'avons vu le mois dernier, il était parfaitement vulnérable, n'ayant rien à offrir ou à promettre comme signe de richesse, si ce n'est sa propre personne. Rachel, de son côté, étant la cadette de la famille, devait attendre que sa grande sœur se marie pour prétendre à une quelconque évolution dans sa vie. Elle aussi était donc en situation de vulnérabilité. Ces deux situations de faiblesse ont fait naître une relation fusionnelle et intense qui a permis à l'un comme à l'autre de patienter 7 longues années avant de pouvoir se donner l'un à l'autre. Telle est ainsi la force de la passion. Elle donne de vivre comme si le futur n'est qu'en promesse, est déjà présent. Il semble donc que la passion ne peut exister que dans cette condition de faiblesse et de vulnérabilité. Lorsque l'homme et la femme vivent dans l'autosuffisance et la commodité d'une situation, ou bien lorsqu'ils la recherchent seulement pour le confort que cela peut apporter, ils ne peuvent prétendre vivre avec l'intensité de la passion. La passion apporte l'intensité seulement s'il y a un manque, comme un espace qui est souvent de la souffrance et de l'angoisse. C'était le cas, je vous le rappelle, d'Abraham et de Sarah en mal de terre et en mal d'enfant. C'était aussi le cas pour Isaac et pour Rebecca, eux aussi stériles et surtout partagés face à leurs deux héritiers, Ésaü et Jacob, l'un et l'autre relativement indignes d'hériter la promesse. C'est ainsi, dans notre lecture, dans le cas d'aujourd'hui, eh bien, l'histoire de Jacob face à Rachel, qui ne peut rien offrir à elle, si ce n'est sa propre personne, et elle qui ne peut rien promettre, puisqu'elle est la fille cadette, et ils vont juste se promettre l'amour et la fidélité. Mais, nous l'avons déjà vu, un petit peu en tout cas, la passion comporte un risque, et ce risque, c'est celui de l'enfermement sur soi. Jacob et Rachel, les amoureux, seront aveuglés sur la souffrance de Léa, la première épouse. Jacob n'a de regard que pour Rachel. Les relations qu'il établit avec Léa sont donc purement charnelles et qui relèvent du devoir ou peut-être même du droit marital. Certains pourraient même penser que Jacob va jusqu'à instrumentaliser Léa car elle continue d'aller vers elle. Il continue d'aller vers elle pour qu'elle lui donne des fils. Pourtant, il ne lui porte aucune importance, comme si sa passion dépassait son devoir. Et donc, le risque de la passion amoureuse est bel et bien l'enfermement qui peut nous porter à instrumentaliser l'autre. Le plus étonnant dans cette situation, eh bien, c'est le refus systématique de la considérer comme cet autre qu'il a le devoir d'accueillir et d'aimer, car confié à lui. Il refuse de voir en Léa l'ouverture qui va permettre à son couple de ne pas périr asphyxié. Mais Léa n'est pas aimée non pas parce qu'elle n'est pas aimable, mais juste parce qu'elle ne rentre pas dans cette relation passionnelle. Et de son côté, Léa termine par croire qu'elle n'est pas aimable parce que même ses nombreux enfants ne vont pas attirer l'amour de son mari. Jacob ne verra en Léa que la mère et jamais la femme, c'est-à-dire l'aide dont il a besoin pour sa propre vie. Léa apporte ainsi une lumière profonde sur la relation homme-femme, car elle prie pour que Jacob la regarde comme femme, et non par l'intermédiaire de sa maternité. Elle recherche la relation gratuite et première. Elle attend la gratuité du regard et du cœur pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle peut faire. Et c'est là tout le drame finalement de son existence qui est manifeste en fait le drame de la relation de couple, en tout cas dans la complémentarité des genres. Il y a en effet un ordre à maintenir afin de garder l'équilibre juste dans la relation complémentaire souhaitée par le Créateur. Il y a un ordre dans les facteurs. C'est-à-dire que la vocation première de l'homme et de la femme n'est pas la procréation, c'est-à-dire la propagation de l'espèce. La vocation de l'homme et de la femme, comme nous le rappelle le catéchisme, est la suivante. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, non pas que Dieu ne les aurait faits qu'à moitié ou incomplet. Il les a créés pour qu'il y ait une communion des personnes en laquelle chacun peut être l'aide pour l'autre parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personne et complémentaires en tant que masculin et féminin. Toujours dans le catéchisme, nous lisons « Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant une seule chair, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. » En transmettant à leur descendance la vie humaine, l'homme et la femme, comme époux et parents, coopèrent de façon unique à l'œuvre du Créateur. L'équilibre ainsi d'une relation saine consiste à vivre une union, mais sans la confusion des personnes ou la fusion des identités. La filiation, c'est-à-dire le pouvoir d'enfanter, de mettre au monde, ou en tout cas d'être parent, qui répond au désir de se multiplier et qui s'exprime de façon différente, hein, dans la paternité ou dans la maternité, n'est que l'expression charnelle et historique de cette union. Pourtant, elle ne constitue en aucun cas une preuve de la réussite de l'union. C'est-à-dire que le fait de se multiplier et d'emplir la terre n'est pas une condition, ou plutôt n'est pas une preuve de la fécondité intérieure. Pour le dire autrement, les enfants ne sont en aucun cas une forme de certification par le Créateur de l'harmonie trouvée par le couple dans le cadre de l'alliance. Le cas Léa-Jacob, c'est-à-dire la maternité pure et dure, mais sans aucune relation de passion, est à ce titre très emblématique, car les deux sont dans le faux. Elle, Léa, veut plus d'enfants pour attirer l'attention de son mari, et pourtant, elle n'y arrive pas. Lui, eh bien, accomplit simplement son devoir d'union, mais sans chercher l'union des cœurs, car il réserve cela à Rachel. En résumé, nous pouvons dire que toute relation complémentaire homme-femme doit naviguer entre ces deux exigences. D'abord, la passion, qui donne plus de vie par une plus grande intensité de relation, c'est le « soyez fécond », et la multiplication, mais celle-ci n'ont pas en vue d'une quantité physique ou numérique. Elle sera tout d'abord multiplication des liens par l'ouverture du couple aux besoins des autres. L'histoire de Léa, de Rachel et puis de Jacob, eh bien, peut sembler un petit peu triste à plusieurs égards. La souffrance, nous l'avons vu, est omniprésente, la rivalité aussi. Aucune fin heureuse ou aucun dénouement positif ne semble se dégager. Pourtant, eh bien, cette situation rendue complexe par des mauvaises actions des hommes reste tout de même source d'inspiration. C'est comme si dans cette histoire, eh bien, tous les défis du couple biblique étaient résumés. L'épouse, c'est-à-dire la figure féminine de la relation du couple, semble ici être volontairement dédoublée en deux personnes physiquement différentes, comme pour nous faire comprendre la complexité des relations sponsales. Dans un premier temps, il faut bien comprendre dans cette histoire qu'un double jeu est présent, celui de l'amour et celui de la filiation, qui peut être en fait décrit comme la présence de la passion face aux exigences de la vie, des coutumes. Mais concrètement, même si ici cette double modalité de l'existence d'un couple est présente à travers deux personnes différentes, il est impossible dans la réalité de les séparer l'un de l'autre. C'est toujours une seule et unique personne que nous sommes appelés à aimer. Le drame arrive lorsque nos relations sont un petit peu contaminées par une double vision, ou plutôt lorsque nous voyons deux dimensions dans une seule personne, comme ça arrive dans l'histoire de Jacob, de Léa et de Rachel. L'humanité doit être unifiée. Ce qui arrive au corps rejaillit sur l'âme. Ce que pâtit l'âme affecte nécessairement le corps. Dans l'histoire de ce couple, tous sont malheureux. Léa, parce qu'elle n'est pas aimée, Rachel, parce qu'elle n'enfante pas, Jacob, parce qu'il doit séparer passion amoureuse ou passion personnelle et devoir vis-à-vis de l'alliance. C'est donc bien la séparation des deux dimensions qui pose problème. Quel serait donc le défi ou l'objectif de toute relation entre le masculin et le féminin pour qu'elle soit féconde et fructueuse ? Pas de doute, c'est la capacité de mettre ensemble de manière harmonieuse et unique les deux exigences naturelles de la fécondité personnelle et de la multiplication que produit cette fécondité. Cette harmonisation va produire dans les deux cas quelque chose de nouveau, l'accueil de l'autre qui va me transformer de manière unique car l'autre est unique. Le résultat est le fruit de cette fécondité, le sera encore plus car elle sera le produit de deux êtres uniques. En cela, la fécondité humaine est ce qui s'approche le plus du pouvoir créateur de Dieu, car il y a une forme de nouveauté qui est produite par l'union de deux personnes. Concluons. Nous pourrions reprendre le résumé de ce que nous avons dit dans cette phrase du Christ que tout le monde connaît, même au-delà de notre foi chrétienne. Lorsqu'il résume les 10 commandements, il dit « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute son âme, et aimez son prochain comme soi-même. » La fécondité à laquelle nous sommes appelés rejoint ainsi le premier commandement, c'est-à-dire d'aimer Dieu. Il est demandé de tout donner à Dieu, la passion du cœur, l'intensité de notre force et la finesse de notre âme. Et l'amour du prochain, en revanche, correspond à l'expression de cette fécondité. Aimer son prochain comme soi-même, c'est d'abord soi-même avoir l'amour de Dieu dans le cœur. C'est d'abord être fécond de cet incroyable mystère de l'amour de Dieu. Ce qui débordera de notre cœur, car il est trop petit pour l'accueillir, pour accueillir tout l'amour de Dieu, rejaillira certainement et nécessairement sur les autres. Merci de m'avoir écouté et nous nous donnons rendez-vous le mois prochain.